Au Niger, les massacres continuent. Il semblerait que les groupes terroristes continuent de faire passer des messages au nouveau président. Et cette fois-ci, au moins 11 personnes ont été tuées ce mercredi au Niger au cours d'attaques contre 3 villages de la région de Tillaberi dans l'ouest du pays à la frontière avec la zone des trois frontières. Les assaillants sont venus sur plusieurs motos aux environs de 17h heure locale. Ils ont tué 3 personnes à Zibane Koirazeno, une autre à Zibane Koirategui et 7 autres encore à Kadabo, donc avec un blessé, a déclaré un élu de la zone sous couvert d'anonymat. Les assaillants ont encerclé les villages et ceux qui ont cherché à fuir ont été poursuivis et tués selon cet élu. Ils ont emporté des animaux, incendié des classes d'une école et saccagé un centre de santé qui procure des soins à plusieurs villages de la zone, a-t-il ajouté. Il y a eu effectivement 11 morts dans les 3 attaques, a confirmé donc une source proche du chef d'un des villages attaqués, réfugié à Niamey à cause des terroristes. Les 3 villages qui sont situés dans une zone difficile d'accès sont distants de quelques kilomètres et en mai 2020, 20 personnes avaient été tuées dans ces mêmes 3 villages au cours d'attaques menées par des hommes lourdement armés venus à moto et qui avaient ensuite fui en direction du Mali selon les autorités. Les attaques contre les civils se sont multipliées depuis le début de l'année au Niger. Plus de 200 personnes ont été tuées dans 3 séries d'attaques contre des villages et des campements de l'ouest du pays frontalier du Mali. Aucune n'a cependant été revendiquée pour l'instant. La dernière de ces attaques de grande ampleur a eu lieu dimanche dans la région de Taoua, faisant 137 morts en quelques heures dans 3 villages Touareg et des campements alentours. La région de Taoua, vaste et désertique, se trouve à l'est de celle de Tillaberi, toutes deux proches de la frontière avec le Mali. La région de Tillaberi est située dans la zone dite des trois frontières entre Niger, Mali et Burkina Faso, où se trouve visiblement la base arrière des groupes terroristes dans la région. Il faut savoir que ces attaques se passent précisément près des bases militaires permanentes des Occidentaux. Il y a tout de même plusieurs points aberrants. Pourquoi les officiels français ne rendent toujours pas hommage ou ne présentent pas leurs condoléances à ces pays où il y a eu de nombreux massacres? De l'autre côté, comme il y a déjà été dit donc dans le Zoom Afrique, c'est que ces civils sont des résistants et même des potentiels résistants qui veulent prendre les armes afin de se battre aux côtés de l'armée nationale. Depuis l'indépendance des pays africains, l'Occident s'est toujours chargé de ne pas laisser les armées nationales se développer comme elles se devaient et cela continue à l'aide de différents moyens. Les populations prennent donc également les armes pour épauler les militaires à sécuriser le pays. Et ces communautés qui épaulent les militaires se trouvent constamment sous les critiques des médias occidentaux et aussi sous le feu des terroristes. Car bien évidemment, cela n'arrange pas l'axe néocolonialiste que les civils combattent le terrorisme aux côtés de l'armée. Cet axe préfère largement voir le pays sombrer dans le chaos pour pouvoir s'emparer du territoire plus facilement. Les communautés sont souvent traitées de milices armées ou même de terroristes ayant prêté allégeance à tel ou tel autre groupe. En effet, donc, l'union des communautés doit être brisée et il n'est pas question pour les néocolonialistes de faire face à une union pareille. Donc, ce qui prouve encore que les militaires occidentaux ne sont pas là pour combattre le terrorisme comme ils le prétendent constamment à la communauté internationale, mais leur but est bien de remettre donc en route la colonisation complète de l'Afrique. Dans des articles des médias africains, nous pouvons constater de plus en plus de papiers émettant de nombreux doutes et de nombreux questionnements quant à la réelle présence militaire occidentale sur leurs terres. Les populations ne sont plus dupes, l'étau se resserre de plus en plus autour des militaires étrangers d'occupation et le danger est de plus en plus grandissant. C'est pourquoi il est véritablement important pour les communautés dans les pays d'Afrique de s'unir pour épauler les armées nationales afin de sécuriser leur territoire, car au plus les troupes occidentales restent, et au plus les groupes terroristes se renforceront afin de continuer à servir les intérêts occidentaux. Au Mozambique, les multinationales se sentent à nouveau en sécurité pour continuer le pillage du pays. Il semblerait que le géant français ait atteint son objectif. L'armée mozambicaine fait face depuis 2017 à une insurrection dans la province de Cabo Delgado des terroristes de Daesh, riches en ressources gazières, après moult pressions de la part de la communauté internationale pour que le gouvernement de Maputo accepte une arrivée massive des militaires étrangers dans son pays. Washington a finalement envoyé des instructeurs afin de former les militaires mozambicains à faire face à Daesh. Les forces spéciales de l'armée américaine ont commencé donc à former des fusiliers marins mozambicains dans le cadre des efforts de lutte contre Daesh, comme ils le prétendent, dans le nord du pays. L'annonce de ce programme de formation de 2 mois, dénommé Joint Combined Exchange Training, a été publiée ce lundi 15 mars par l'ambassade américaine au Mozambique. Et selon eux, les terroristes représenteraient une menace importante pour les projets gaziers des groupes français Total et américains ExxonMobil à Cabo Delgado. Selon les médias mainstream, cette formation des troupes combattant sur le terrain devrait s'avérer plus pertinente que les sanctions américaines contre Daesh dans le pays. En effet, les mesures habituelles de gel des avoirs, de restrictions en matière d'immigration et les interdictions pour les ressortissants américains d'effectuer des transactions avec les organisations terroristes risquent donc d'être insuffisantes dans le cas du groupe mozambicain. Plusieurs points sont annoncés ici. Tout d'abord, Daesh ne fait pas l'objet donc de sanctions directes de la part de Washington, car le régime de sanctions vise principalement les pays qui ne se plient pas aux diktats des États-Unis. Secondo, Daesh a bel et bien des avoirs aux États-Unis. Il est donc impossible pour Washington de les mettre sous sanctions. Et enfin, Washington, à travers ses ressortissants, peuvent donc continuer à financer Daesh sans aucune inquiétude. Sinon, pourquoi Daesh ne devrait-il pas être sous le régime des sanctions américaines? Si ce que les médias mainstream disent est vrai, Daesh s'autofinancerait avec du banditisme, du pillage, etc. Donc cela ne devrait poser aucun problème pour Washington de les mettre sous sanctions. Le monde entier sait maintenant que ces groupes terroristes sont à la solde occidentale et qu'il est donc impossible que ces terroristes attaquent directement les installations des multinationales. Le même schéma a été mis en place au Moyen-Orient, surtout en Syrie ou encore en Irak, mais ce fut un échec, car ce qui n'était pas prévu au programme, c'est qu'un axe de la résistance a été mis en place pour combattre justement ce terrorisme et ils ont gagné. Maintenant que les soldats américains sont là, prétendument dans le but de former les soldats mozambicains, Total et ExxonMobil ont fait leur part du contrat et peuvent maintenant reprendre leurs activités en toute tranquillité. Total a annoncé donc mercredi la reprise des activités de construction pour un méga projet gazier dans le nord du Mozambique à la suite de la mise en place de mesures de sécurité dites additionnelles. Pour rappel, le géant français de l'énergie avait évacué début janvier des employés du site gazier après une série d'attaques terroristes de Daesh à quelques kilomètres du projet. L'arrivée des soldats américains a suffi pour que Total se sente en sécurité, mais qui est réellement l'ennemi dans ce cas-ci? Car il faut également savoir une chose, c'est que maintenant les États-Unis veulent prendre le contrôle de l'armée mozambicaine afin qu'elle protège ses propres intérêts, que ce soit au niveau des installations des multinationales qu'au niveau de la marine. Dans ce programme donc de formation, il n'y a aucunement un entraînement qui consisterait à combattre les terroristes. Voici la tournure des médias mainstream. Les forces spéciales américaines ont lancé un programme de formation pour épauler le Mozambique dans la lutte contre les combattants de Daesh qui font obstacle au projet de GNL dans la province gazière de Cabo Delgado. Nous avons pu constater que les terroristes n'ont jamais fait obstacle aux différents projets des multinationales. Mais bien au contraire, ces multinationales occidentales sont déjà protégées à la base car des accords ont été mis en place pour que justement les projets ne soient pas affectés et que ces éléments terroristes fassent fuir plutôt les populations de ces zones pour notamment plusieurs raisons. Garder une poignée d'habitants de la zone afin qu'ils travaillent sur les projets avec bien sûr un moindre coût et les autres doivent partir pour ne pas entraver le processus d'expansion. Éviter également les retombées de pollution directe sur les civils, sauf pour les travailleurs bien entendu, pour ne pas alerter la communauté internationale. De nombreuses attaques des terroristes de Daesh dans cette province donc a illustré ces propos qui bordent donc la frontière avec la Tanzanie, ont déjà fait plus de 2500 morts et contraint plus de 570 000 personnes à fuir la région. Le président mozambicain Filipe Nyusi avait appelé au soutien de la communauté internationale pour faire face à la situation. La Tanzanie a récemment promis d'appuyer le pays et c'est pour cela précisément que l'axe occidental ne se sentait pas vraiment en sécurité, car avec l'appui des pays voisins au Mozambique, il était clair que le terrorisme n'allait pas faire long feu malgré les nombreux moyens mis à leur disposition au niveau des finances et des armements. c'est le début d'une malisation donc du Mozambique. Les investissements au niveau du pillage des ressources naturelles du Mozambique sont énormes, mais son emplacement donnant donc sur l'océan Indien fait du pays un objet aussi de convoitise. La manœuvre américaine donc consiste entre autres à former dans le domaine militaire maritime les forces armées mozambicaines afin de contrer les concurrents comme l'Iran ou encore la Russie qui sont tous deux présents dans l'océan Indien sur les eaux territoriales malgaches à la demande d'Antananarivo. Dans un deuxième temps, monopoliser l'armée de terre mozambicaine afin qu'elle ne sécurise pas le pays. Et cependant, le président mozambicain Philippe Nyusi a peu évité le remake du Mali en se tournant d'abord vers la Russie mais également vers les pays voisins, avant d'alléger la pression constante et forte mise par l'Occident afin qu'il cède le pays aux troupes d'occupation étrangères. La France n'a donc pas pu s'y installer comme elle l'a fait au Mali, comme elle l'avait prévu d'ailleurs, et d'ailleurs la diminution des effectifs de Barkhane était mise en place pour prendre position au Mozambique. Mais ce fut un échec et Paris s'est vu contraint de rester au Sahel, ce qui fait que même si les États-Unis sont présents militairement dans le pays, ils ne sont pas totalement à l'abri et en terrain conquis. Le monopole tant attendu par l'axe occidental est capoté, ce n'est qu'un début. Les chefs d'État africains connaissent maintenant les manœuvres occidentales et montrent sans cesse qu'ils peuvent les contourner facilement, et ce n'est qu'un début. L'Éthiopie continue d'affirmer qu'il ne veut en aucun cas d'une guerre avec le Soudan, ce qui n'arrange visiblement pas les États-Unis. L'Éthiopie ne veut pas de guerre avec le Soudan, a affirmé mardi le Premier ministre Abiy Ahmed, alors que les tensions entre les deux pays se sont aggravées, selon les médias mainstream, ces derniers mois dans la région frontalière d'Al-Fashaga. L'Éthiopie a de nombreux problèmes et nous ne sommes pas disposés à nous battre. Nous n'avons pas besoin de guerre, il vaut mieux régler cela de manière pacifique, a déclaré Abiy Ahmed devant le Parlement. Nous ne voulons pas la guerre, a-t-il ensuite ajouté, qualifiant le Soudan voisin de pays frère. Alors qu'une lutte se met en place entre les États-Unis et la Russie au Soudan, la concurrence militaire américano-russe bat son plein en mer Rouge sur les côtes soudanaises. En décembre dernier, la Russie avait donc annoncé un accord avec Khartoum prévoyant la construction d'une base navale à Port-Soudan. Mais depuis sa sortie de la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme, les États-Unis convoitent aussi ce lieu stratégique qu'est le Soudan. Et il n'est pas exclu que Washington y installe aussi une base navale. Le centre logistique naval de Port-Soudan, le premier en Afrique pour la Russie, est destiné à accueillir jusqu'à 4 vaisseaux et 300 militaires. Il doit servir, selon les autorités russes, comme centre d'appui logistique et donc pour les réparations et les ravitaillements. La position stratégique de ce carrefour d'échanges maritimes renforcera le pouvoir d'action de la Russie dans l'océan Indien et le golfe d'Aden. Quant aux États-Unis, ils semblent aussi vouloir un pied-à-terre au Soudan post-El-Béchir, dans un contexte de rapprochement entre Washington et Khartoum, et alors que la coopération militaire avec le Soudan est en train de prendre de l'ampleur. Depuis fin janvier, date de la visite du numéro 2 de l'Africom à Khartoum, des informations ont fuité sur un accord pour une base navale américaine. Elle serait située à Akik-Kabir, non loin de la frontière avec l'Érythrée. La politique de la main tendue américaine à Khartoum vise, selon plusieurs observateurs, à couper la route aux intérêts russes. En moins d'une semaine, deux navires militaires américains ont accosté au Soudan, le dernier en date. Donc le destroyer Winston Churchill est arrivé samedi à Port-Soudan et depuis dimanche, la frégate russe Admiral Grigorovitch est amarrée à 4 km du bâtiment américain. C'est pourquoi une guerre entre l'Éthiopie et le Soudan bénéficierait aux États-Unis afin d'empêcher Moscou d'étendre son influence dans le pays, ce qui vise donc la nouvelle administration de Biden, contrairement à son prédécesseur Trump, c'est le monopole des eaux en mer Rouge ou dans le golfe de Guinée ou encore dans l'océan Indien. L'arrivée des forces américaines au Mozambique ou encore l'arrivée massive des Américains au large de la Somalie avec comme prétexte la sécurisation du retrait des 700 militaires US du territoire somalien donc prouve également que Washington veut à tout prix avoir le monopole maritime. Mais décidément, Addis Abeba et Khartoum ne veulent pas entrer en guerre l'un contre l'autre, ce qui n'arrange évidemment pas Washington, car ce qui empêche une émergence de la présence russe ou encore chinoise ou iranienne en Afrique, c'est bien la déstabilisation des pays cibles, car le but de ces puissances de l'Est, c'est la stabilité des pays d'Afrique et leur développement, et non les guerres et les déstabilisations. L'axe occidental a du mal à provoquer des guerres intra-africaines, car ce qui est en train de se développer plutôt, ce sont les alliances intra-africaines.
Les performances d'Ethiopian Airlines inspirent d'autres compagnies aériennes en Afrique qui travaillent à leur présence dans plus de pays. Égyptair et sa filiale El Cairo sont aussi dans une dynamique d'expansion, notamment en Afrique de l'Ouest. L'Égyptien El Cairo, filiale low cost de la compagnie aérienne Égyptair, envisage d'ouvrir de nouvelles routes à destination de Niamey en Niger et Conakry en Guinée au deuxième semestre 2021. La compagnie, qui a annoncé les couleurs à travers un communiqué le 8 mars, s'est vue appuyée dans cette ambition par le ministre guinéen des Affaires étrangères, Ibrahima Khalil Kaba, récemment en visite au pays des Pharaons. Le président d'El Cairo, Hussein Sharif Fahmy, qui a rencontré le ministre guinéen, en a profité pour formuler une demande pour l'obtention sur la ligne Niamey-Conakry du droit de la cinquième liberté. Il permet d'embarquer ou de débarquer des marchandises ou des personnes dans un état tiers, à destination ou en provenance de tout autre état contractant. Les vols dont la date précise lancement n'a pas encore été révélée devraient néanmoins s'effectuer en Airbus A320 capable de recevoir jusqu'à 174 passagers. L'ouverture de ces nouvelles liaisons est intégrée au plan d'expansion élaboré par la compagnie en vue de se positionner sur les marchés subsahariens. Elle a de ce fait commandé 3 à 320 néons en octobre de l'année passée et espéré leur livraison avant fin 2021. Égyptair, le pavillon mère, occupe actuellement le deuxième rang des plus grandes compagnies aériennes du continent derrière Ethiopian Airlines. Le Premier ministre guinéen Ibrahima Kassori Fofana a lancé mercredi 24 mars les travaux d'élaboration de la phase 2 du Plan national de développement économique et social PNDES qui englobe toutes les stratégies de développement en Guinée pour la période allant de 2020 à 2026. La rencontre, présidée par le Premier ministre, s'est faite en présence des acteurs clés du développement intégré de la Guinée, ainsi que des partenaires techniques et financiers engagés à soutenir les efforts internes du pays dans une large voisin de développement économique et social. Ce plan est conçu pour être la réponse du gouvernement aux défis systémiques du développement de la Guinée, a indiqué la ministre guinéenne du Plan et du Développement économique, Mamakeni Diallo. Selon elle, ce plan intègre des thématiques telles que le rôle de l'innovation dans la transformation structurelle de l'économie, l'accélération de la transition numérique et la promotion de l'économie verte et bleue. La fragilité et les points d'ancrage d'une stratégie de résilience pour la Guinée, ainsi que la valorisation du capital humain, sont aussi des thématiques incluses dans la concrétisation du PNDES, a poursuivi la ministre. Pour sa part, le Premier ministre a rappelé que la première phase du PNDES 2016-2020 a été mise en œuvre dans un contexte macroéconomique globalement stable. Durant les 5 ans du PNDES 1, M. Fofana a noté que le pays avait connu une forte croissance économique avec la tenue de toutes les promesses de développement initialement fixées. Le PNDES permet de coordonner et d'orienter toutes les initiatives de développement du gouvernement guinéen ainsi que les apports des partenaires bi- et multilatéraux du pays. Au Mali, la Nationale 6 est un axe stratégique pour le désenclavement des régions du centre et du nord. Partie intégrante de la transsaharienne Alger-Lagos, elle joue un rôle vital dans les échanges économiques du pays. Conscient de cet enjeu, le gouvernement a amorcé des travaux sur plusieurs sections. Le Premier ministre malien, Mokhtar Ouane, a présidé samedi 20 mars au lancement officiel des travaux d'aménagement de la section Sévaré-Mopti, 12 127 km de la route nationale numéro 6. Le chantier, prévu pour durer 32 mois, comprend aussi l'aménagement de 10 km de voirie, dont 5 km à Mopti et 5 km à Sévaré, et la construction de la voie de contournement de l'aéroport de Mopti à Mbodesio. Les travaux, dont le coût global est estimé à 32,6 milliards FCFA, 50 millions d'euros, sont financés par la Banque africaine de développement, BAD, et le budget national du Mali. Le marché a été attribué à l'entreprise générale Mamadou Konaté, EGK, tandis que le bureau d'études privées SIRA SAS, Conseil ingénierie et recherche appliquée, présent dans plus de 20 pays en Afrique, assure la mission de contrôle. Une fois achevée, cette section va contribuer notamment à fluidifier le trafic sur la voie reliant Sévaré et Mopti. Mieux, cet aménagement va créer des conditions qui permettront d'abord de sécuriser les populations, améliorer le cadre de vie et ensuite de promouvoir la création d'emplois pour améliorer les revenus, en particulier des femmes et des jeunes, a déclaré Mokhtar Ouane. Rappelons que la route nationale numéro 6 fait partie du projet international de route transsaharienne reliant le pays, l'Algérie, le Niger, le Nigeria et le Bénin. Sur ce corridor vital pour les échanges commerciaux, le gouvernement malien a également amorcé les travaux de réhabilitation de la section Sévaré-Gao-Sévaré-Boré. Ce trajet bénéficie d'un prêt de 22,2 milliards FCFA de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Il sert à relier les régions de Gao et de Kidal et une partie de la région de Tombouctou avec le reste du territoire malien. Sa réhabilitation permettra en même temps de désenclaver des centres importants comme Doro, Kossi, Omori, Boni et Douentza. Il s'est ouvert ce 24 mars à Niamey un forum international sur la paix et la stabilisation dans les zones de conflit et la lutte contre le terrorisme insurrectionnel dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad. Présidant la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre Brigui Rafini a rappelé l'importance du thème choisi. Aujourd'hui, le défi le plus saillant au monde est le défi sécuritaire avec la présence des groupes armés terroristes et criminels dans le Sahel central et le bassin du lac Tchad. Ces groupes disputent aux États le contrôle des régions entières, particulièrement en zone rurale, a-t-il indiqué à cet effet. Le chef du gouvernement a ensuite détaillé le mode opératoire de ces groupes terroristes, notamment leurs usages systématiques de la violence et de la justice expéditifs et leur volonté manifeste de se porter en contre-exemple de la mauvaise gouvernance. Il a ensuite appelé les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad à mutualiser leurs efforts en vue de venir à bout de cette menace. Le général Mamadou Abou Tarka, président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, est allé dans le même sens que le Premier ministre. Pour vaincre le terrorisme insurrectionnel, a-t-il ajouté, les techniques du contre-terrorisme doivent être complétées par les leçons de la doctrine contre-insurrectionnelle, reconquérir et contrôler l'espace, protéger la population et rétablir l'administration dans toutes ses fonctions. Nous avons besoin de mobiliser à la fois l'État et la population, de renouveler et de renforcer le pacte républicain dans lequel l'État est au service de tous. Notons que depuis 2015, la région du Sahel et le bassin du lac Tchad font face à une crise sécuritaire sans précédent. Depuis le début de l'année, ce sont environ 250 personnes qui ont perdu la mort dans des attaques terroristes au Niger.